se défaire du récit de l'Apocalypse, une émission enregistrée au studio DU en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Avec Antoine Bertin, Sébastien Lacomblaise et Claire Williams, en conversation avec Ashley Seven.
Alors, nous sommes aujourd'hui réunis au studio de Radio DU avec donc Antoine Bertin qui est ici en présentiel avec moi, ainsi que Claire Williams et Sébastien Lacomblaise qui participent à distance en écho donc à l'exposition Code is Law qui a lieu au centre Wallonie-Bruxelles à Paris et qui se termine bientôt le 28 février. Alors cette conversation a été réfléchie autour de la question de l'idée de l'apocalypse comme seul horizon possible et pour questionner et pour déjouer un peu cette idée en révélant par trois pratiques artistiques, donc différentes propositions qui reprennent un peu les textures multi-échelles du monde vivant et qui développent donc une réflexion critique sur les outils notamment. En parlant d'outils, il faut peut-être mentionner cet article de Laurence Lessig qui a donné à l'exposition son titre et qui est cité dans Art Press. Donc je cite « La question n'est pas de savoir qui décidera de la manière dont le cyberespace est régulé, ce sont les codeurs. La seule question est de savoir si nous aurons collectivement un rôle dans leur choix et donc dans la manière dont ces valeurs sont garanties. » ou si nous laisserons aux codeurs le soin de choisir nos valeurs à notre place. Alors, donc, il s'agit aujourd'hui de réfléchir un peu sur qu'est-ce qui crée cette idée d'apocalypse comme seul horizon possible de l'avenir, et comment imaginer des récits alternatifs, et peut-être le rôle des outils dans la production de cette réalité. Alors, je vais commencer par Sébastien Lacomblaise, qui nous rejoint aujourd'hui depuis Charleroi, et dont la vidéo qui s'intitule « Pour une civilisation des jardins » sera diffusée depuis les plateformes du Centre Wallonie-Bruxelles à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo qui fait manifeste, dont il s'agit d'un texte et qui est collectif. Donc, il s'agit d'un collectif Terre dont Sébastien Lacomblaise fait partie, mais qui est constitué de plusieurs entités. Alors, on va peut-être commencer par écouter un court extrait de cette vidéo et ensuite, donc, on va écouter Sébastien.
Depuis ses origines, la vie croît en capitalisant de la matière organique et du patrimoine génétique. Cailloux stériles à l'origine, notre planète s'est terraformée d'elle-même, grâce à l'action de la vie. Les successions de vie et de mort permettent la création d'humus qui s'accumule et permet à des formes de vie de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes d'advenir. Les vagues d'extinction qui se sont produites dans son histoire n'ont fait que ralentir ce mouvement qui semble sans fin. Ainsi croit la vie. En va-t-il de même de la croissance fantasmée par l'économie mondiale, prétexte à l'équilibre de ce monde, ainsi façonné dans l'exploitation jusqu'au boutiste des ressources naturelles? La croissance ne peut être infinie en un système physique fermé. L'homme peut rêver à tous les mondes possibles. La physique contraint sa réalité.
Alors Sébastien, bonjour.
Bonjour.
On vient d'écouter donc un court extrait de la bande sonore de la vidéo. Je voulais revenir avec toi sur cette idée de jardin. Donc c'est le titre de la vidéo est pour une civilisation des jardins. Et il y est question de jardinage, mais du jardin comme à la fois représentation symbolique, à la fois laboratoire, lieu d'expérimentation, lieu de rencontre, lieu d'abondance. Et donc c'est une vidéo qui parle de comment cultiver cette abondance, qui essaye de voir la planète comme un réseau écologique de jardins, qui parle de maillage jardiné, et qui reposerait donc sur une articulation des arts et des techniques. Ces derniers termes qui m'ont beaucoup intéressée parce que c'est une vidéo qui propose une vision positive de l'intervention humaine, j'ai envie de dire. qui peut être rare dans les débats écologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle serait donc cette articulation des arts et des techniques ?
Peut-être parler du jardin tout d'abord, et pourquoi le choix de la figure du jardin ? C'est un lieu où se conjuguent en fait la nature et la volonté humaine. Moi j'ai eu une longue pratique artistique, enfin je suis issu des arts numériques, etc. Et j'ai dévié progressivement vers l'art du jardin parce que depuis le début de ma recherche, je cherchais une sorte de médium d'expression qui puisse me permettre de conjuguer ma passion de la nature avec nos technologies et nos outils, en tout cas. Voilà. J'ai l'impression que, vu l'état de la civilisation, on a besoin de grands projets et conjuguer donc le politique, l'esthétique poétique et la nature semble tout à fait... pour moi, là, il y a un enjeu fondamental actuellement. D'autant qu'on est en train de couvrir totalement la planète par notre action. Et le jardin pourrait constituer une forme qui permette de relier la biosphère et la technosphère. Voilà. Mmh.
Je vois. D'ailleurs, je crois que tu as aussi, dans ta pratique artistique ou de jardinage ou biologique presque, travaillé sur la question de brassage entre espèces. Tu avais un travail, je pense, avec les serpents à un moment.
Ouais.
Et donc, dans la vidéo, il est question aussi de parler de ce brassage du jardin comme un lieu où différentes espèces se rencontreraient.
Ouais.
Ouais,
j'ai longtemps pratiqué l'hybridation de serpents. Et ma première expo, d'ailleurs, c'était une expo de serpents en 2009. Mmh. Et c'était en fait une sorte de work in progress où je cherchais en faisant, quoi. C'était vraiment un travail processuel. Et c'est en m'intéressant vraiment à l'hybridation des serpents. J'avais déjà une passion pour les serpents depuis l'enfance. Mais c'est en collectionnant et en travaillant à partir de ce matériau vivant que j'ai développé ma sensibilité et en tout cas certaines connaissances aussi sur la question de la frontière des espèces et sur la dynamique inhérente au vivant et à la non-fixité du vivant en tout cas.
Tout à fait. Et je sais qu'à part ta pratique artistique, tu as aussi une structure qui s'appelle Carbonifère et qui crée des jardins, effectivement, donc qui peut-être n'est plus trop dans la pratique artistique, mais plutôt dans une pratique, dans une démarche d'entreprise. Comment est-ce que tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pratique artistique ?
Mais je considère mon entreprise comme la continuité de ma pratique artistique, c'est-à-dire c'est comme c'est le résultat d'un cheminement où progressivement je me suis éloigné des lieux de l'écosystème qu'on appelle artistique, mais pour moi c'est toujours le lieu de l'expression, parce que d'une expression artistique, parce que c'est pas parce qu'on fonctionne en dehors des institutions dédiées à l'art qu'un art n'existe pas. Et voilà. Donc, il y avait aussi cette volonté d'agir sur le réel plutôt que d'agir dans le symbolique. Voilà. Mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer à la création de mon entreprise.
Mm-hmm.
Voilà. Avant, j'avais un collectif qui s'appelait Entreprise d'optimisation du réel. Ça fait un moment que je dévie vers ce champ-là.
Mais toujours dans des collectifs, qu'en est-il de ce collectif Terre
Terre, c'est un consortium parce qu'on est deux entreprises. Donc, il y a Carbonifère, que j'ai créé avec Thomas Delin. Il y a Trom Novel, qui est un collectif d'architecture, avec qui on avait fait la Biennale de Venise en 2018. Il y a l'ASBL de Sébastien Bizet, dont je ne sais pas prononcer le nom. Sébastien Bizet, qui est historien de l'art, mais qui s'est reconverti dans la réinsertion par le maraîchage. Et finalement, j'implique aussi mon option de design urbain. Je suis enseignant à Mons, en Belgique, et j'implique des étudiants dans des projets voilà, concrets comme ça. Donc, c'est un moyen pour nous, le collectif, et l'objet qu'on a créé, l'objet vidéo, disons que c'est un peu l'espace spéculatif dans lequel on pose le cadre de réflexion qui ensuite est appliqué du mieux qu'on peut avec nos différentes entreprises.
D'accord. Donc, c'est une œuvre collective, si j'ai bien compris.
Oui.
Et le texte aussi, enfin, le texte qu'on entend.
Oui, les concepts, on les a, voilà, on les a conçus à plusieurs, enfin, avec tout le collectif. Et ça a été remis en forme par Sébastien Bizet. Et dans la vidéo, c'est récité par Mélanie de Biasio, qui est une chanteuse jazz.
Et en lisant le texte et aussi en écoutant la vidéo, ça m'a fait penser en fait à une chose en particulier, c'est peut-être le jardin comme un lieu collaboratif. Et ça m'a fait penser au darwinisme, en fait, à quel point le darwinisme a eu cette idée de compétition qui a prévalu pendant très, très longtemps. Et donc, on est peut-être en train, j'espère en tout cas, de sortir de cette vision du monde biologique pour peut-être penser plus en termes de collaboration, de coexistence, de symbiose. Et donc, peut-être le faire jardin dont il est question dans cette vidéo, par moment en tout cas, il m'a semblé qu'il y avait le postulat que l'homme en faisait partie aussi, au lieu d'être cet être extérieur qui observe. Oui, exactement.
Ouais. Donc, oui, c'est pour ça. Et on apprécie particulièrement, c'est la figure du bocage. Je pense que j'avais lu ça, c'est chez Catherine Larère et Raphaël Larère dans Penser et agir avec la nature. Et ils donnaient en exemple le bocage, la structure du bocage. Donc, c'est ce réseau, ce maillage végétal qui irriguait les campagnes, dont il reste toujours quelques reliquats, notamment en Normandie et dans l'Avesnois. Et en fait, ça symbolise assez bien un rapport positif à la nature où on peut faire mieux que l'existant. C'est-à-dire qu'en créant ce réseau, on crée des écounèmes linéaires, c'est-à-dire des espèces d'écosystèmes qui sont à la fois utiles aux espèces de la prairie, utiles aux espèces qui apprécient la protection des bois, et on crée une sorte de plus comme ça. Voilà, et c'est à la fois utile à l'homme parce que ça protège nos cultures, ça peut être productif en termes alimentaires, etc. Et voilà, dans nos fantasmes, on imagine un maillage planétaire sous forme de bocage. On s'éloigne en cela de la vision de wilderness qui a été développée par les États-Unis à un autre siècle, où l'idée était de protéger la nature et d'en faire des espèces de... d'espace dans lequel il n'y a plus aucune influence humaine. Et ça nous paraît complètement naïf en 2021 et vu la tournure.
Oui, une vision de la conservation.
Oui, voilà. On voudrait passer d'une écologie conservatrice à une écologie de la relation qui intègre aussi notre technosphère.
D'accord. Alors, parlant du maillage et des relations, en fait, ça va peut-être me donner le prétexte de passer à un travail textile. Donc, Claire, qui a une œuvre dans l'exposition intitulée Spectrogramme. Alors, Claire Williams travaille avec des paysages électromagnétiques, des ondes électromagnétiques d'origine industrielle comme naturelle. Donc captées par des antennes, transformées en son, ensuite en passant par des machines à tricoter et un code binaire transformé en textile. On va peut-être écouter un court extrait justement d'ondes électromagnétiques sonifiées. Bonjour Claire, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Très bien. Alors, nous venons d'écouter un court extrait que tu avais partagé avec nous. Ton œuvre dans l'exposition, donc, qui s'intitule Spectrogramme, donc on a une machine à tricoter. Quand on est dans l'exposition, en tout cas, on voit une machine à tricoter, des exemples de tricots qui ont été réalisés et donc un qui est en cours de réalisation. Et il y a une vidéo qui accompagne tout ça, qui explique un petit peu tous les processus derrière, notamment de traduction multiple, de langage multiple que tu entreprends avec cette œuvre. Est-ce que tu aimerais expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne ?
Dans ma pratique, souvent, j'essaie de construire de manière artisanale des instruments de captation par rapport à cet espace qui est notre paysage électromagnétique. Donc, il faut imaginer qu'en ce moment même, on est traversé par plein d'ondes artificielles et naturelles, donc artificielles, des SMS, des appels téléphoniques, des émissions radio, des données de satellites, et naturelles dans le sens où aussi notre Terre produit aussi des ondes électromagnétiques liées à des phénomènes météorologiques ou encore des rayons gamma qui nous viennent du cosmos, etc. Et donc, à partir de là, en fait, donc dans ce projet ici, c'est une forme de tentative de matérialisation, de rendre palpable un peu cette activité. Et donc, là, je pars je scanne le lieu avec des antennes. Et à partir du lieu, j'essaie de rendre tangible un peu une sorte de mémoire électromagnétique des ondes qui ont traversé ce lieu. Donc ici, dans le cadre de l'exposition Code Islo, c'est les ondes du lieu qui ont été, été tricotées. Et une autre pièce, d'autres, où c'est des spectrogrammes, donc ça représente, ça nous visualise les ondes, les fréquences. C'est une éruption solaire, par exemple, aussi, qui a été ici tricotée. Donc, c'est tous ces phénomènes voilà, qui se matérialisent au sein d'une surface textile.
D'accord. Alors, il y a plusieurs choses qui me paraissent intéressantes. Et il y a tout d'abord, dans ce que tu viens de raconter, il y a cette échelle du... Enfin, l'échelle du... Est-ce qu'on perd de sa micro ? Je ne pense pas, mais toute l'échelle de choses qu'en tant qu'être humain, nous n'avons pas accès. Enfin, nos capacités perceptives, en tout cas, ne donnent pas accès à ces informations. Donc, tu les rends sensibles. Et d'un autre côté, je sais que dans ta pratique, il y a une dimension importante de l'appropriation d'outils, du piratage, du DIY et peut-être dans l'idée de former des communautés autour de ce type de pratique. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus notamment cette question d'appropriation d'outils techniques ?
Oui, donc à la base, je viens vraiment du design textile, donc une pratique du design et de l'artisanat pour former des surfaces textiles. En sortant de mes études que je me suis plutôt dirigée vers la pratique de plasticienne, et donc je crée des installations où j'intègre principalement du son, de l'électronique et du textile, mais à chaque fois aussi ça dépend, mais il y a souvent c'est toujours très lié à l'artisanat, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse en dehors aussi de l'installation finie dans le processus, c'est d'aller chercher dans des répertoires d'artisanat pour construire ses propres circuits, ses propres instruments, avec des choses qu'on peut un peu bricoler, trouver un peu dans sa cuisine pour fabriquer ces choses qui nous permettent un peu d'accéder ou de se réapproprier des espaces, autant dans celui de l'espace technologique qui est très fermé, on va dire, et donc de l'ouvrir et aussi par rapport à des pratiques de par exemple, radio, comment on se réapproprie l'espace électromagnétique par rapport aussi à des perspectives féministes, etc. Donc derrière ça, c'est une pratique collective de partage, de bricolage, d'artisanat, pour un peu voir qu'est-ce qu'on peut entendre ou capter de ce monde dont on ne peut pas accéder directement. Quoi.
Oui, tout ce que tu racontes me fait penser aussi à cette idée de textilité comme concept, non pas comme matériau textile, mais comme concept. D'ailleurs, on a parlé avec toi de Tim Ingold, de l'anthropologue Tim Ingold, qui parle de cette idée de textilité dans un texte que j'avais lu qui parle du design, en fait, de design comme discipline. Et j'ai trouvé un extrait, en fait, il dit quelque chose comme ça, c'est ma traduction, donc je suis désolée pour l'imperfection. Mais donc, il parle de la textilité contre opacité comme principe de design. Alors, il dit que plus on est dans une logique de design d'objets qui enferment les flux et les circulations énergétiques et matérielles derrière des surfaces opaques et lisses, plus nous produisons une aliénation par rapport à notre environnement et une incapacité à percevoir la profondeur de l'échelle de notre engagement matériel avec le monde qui nous entoure. Alors, c'est une phrase qui me paraît importante, et je pense que l'ensemble de vos pratiques résonnerait avec cette idée de textilité. Donc, dans cette idée que tu développes d'appropriation d'outils, parce que tu m'avais parlé aussi du fait que tu tissais des antennes, par exemple. Donc, y a cette idée de révéler la textilité qui est déjà là, mais auquel on n'a pas nécessairement accès avec les outils habituels, avec un iPhone, par exemple, qui est justement une de ces surfaces opaques auxquelles on a affaire.
Oui, je pense que par rapport à ta référence à Tim Ingold, ce qui est intéressant aussi dans ce principe, c'est vraiment la personne qui manipule pour créer à partir d'un morceau de laine de mouton un fil et ensuite une surface. C'est vraiment l'idée où on engage un rapport entre les matériaux pour en construire des matérialités. Et donc, on est vraiment dans la fabrication de cet entre-deux, de cet espace qui va d'un seul coup déployer un espace possible d'entrecroisement, de fils, de choses qui vont permettre d'avoir des surfaces sur lesquelles on peut inscrire des pensées, des expérimentations, des fabrications. Et donc, je pense que oui, dans ce sens-là, c'est vraiment ça aussi. Et c'est vraiment un travail aussi d'artisan, dans le sens où on doit bien connaître le matériau pour savoir comment le travailler et lui faire faire des choses différentes à chaque fois. Qu'il y a toute cette question très écologique par rapport à ça, je pense, dans l'écologie du geste, créer à partir du rien, enfin du fil, et créer une multitude de lignes, de surfaces, pour reprendre un peu la pensée de Tim Ingold.
Oui, et puis ça me fait penser au fil du récit aussi, d'écrire des récits alternatifs, ou de révéler des récits alternatifs qui existent déjà. Quand on se parlait tout à l'heure, l'autre jour, tu me parlais de toute cette histoire du 19e siècle, au moment de l'invention du télégraphe. On avait aussi des femmes médiums qui essayaient de parler aux fantômes via ces outils. Donc, c'est toute une histoire parallèle qui existe et qu'on ne transmet pas.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est des recherches sur mes derniers projets là, autour de l'éther. Et donc, c'est aller voir un petit peu comment notre espace électromagnétique a été forgé par l'intervention de l'homme. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand on regarde dans l'archéologie de nos médias, il y a tout plein d'espaces qui existaient, qui cherchaient à expérimenter énormément dans des choses qui peuvent paraître occultes ou irrationnelles. Où la science se mêle à l'artisanat et aux penseurs. Vraiment une création à travers des outils qu'on fabriquait aussi dans l'atelier, quoi. Et donc là, je travaille autour de ces questions des femmes médiums qui étaient en fait, faisaient partie de cette histoire-là, où elles utilisaient leur pouvoir pour déployer des fils électriques, des câbles pour aller parler au monde des morts, par exemple. Et donc, ça a influencé énormément. Ça fait des allers-retours entre l'invention ensuite du phonographe ou de la radio, de la communication sans fil, où on a entrepris en fait une manière de chacun pouvait un peu reprendre possession de cet éther, donc cet espace invisible, fluide, magnétique, et commencer à fabriquer des appareils, par exemple, pour communiquer par la pensée ou photographier la pensée sur des papiers photosensibles, parler aux morts. Il y a plein d'expérimentations assez incongrues et intéressantes et qui sont vraiment dans les racines un peu de beaucoup de technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir aussi dans quel état était ce champ entre art et science à cette époque-là.
Et tout à fait. Et pour réimaginer peut-être des alternatives et proposer des récits alternatifs pour le moment présent aussi, pour l'avenir. Ce sont des outils spéculatifs intéressants, en fait.
Oui, voilà, ça ouvre aussi à dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand la science n'est pas devenue celle qu'on connaît aujourd'hui, celle avec une science objective, avec une série de protocoles, mais c'était plutôt une question ouverte où, en fait, les choses n'étaient pas autant classifiées. Voilà, ça nous permettait d'avoir un espace où tout le monde pouvait un peu se l'approprier, voilà, à travers ses pratiques, à travers l'artisanat, à travers son corps, etc. Donc là, je trouve que ça réveille des choses intéressantes en disant, bah, aujourd'hui, en tant que personne, enfin, en tant qu'artiste, quand on essaie d'imaginer d'autres types d'interfaces ou d'autres manières d'approcher, en fait, cet éther ou cet espace invisible, bah, du coup, ça ouvre aussi plein de possibilités en allant chercher un peu dans ces pistes abandonnées de comment, en fait, on aurait pu imaginer voilà, notre avenir technologique si une autre piste avait pris le chemin, par exemple. Donc, si on avait été chercher dans d'autres endroits que celles qui ont été choisies, ça aurait pu être une histoire totalement différente de l'humanité vis-à-vis des technologies, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont toujours intéressantes et qui ont existé et qui sont intéressantes à remettre en lumière aussi parce qu'elles racontent aussi d'autres choses et d'autres narrations, quoi.
D'autres possibilités, oui. Oui. Bon. Alors, cette échelle d'invisible et cette idée de textilité et tous les rapports symbiotiques que nous avons au monde qui nous entoure sont aussi repris par Antoine Bertin dans ses œuvres. Alors, on va peut-être écouter encore un petit extrait donc de sa composition Species Counterpoint, Contreprend des espèces, qui fait partie de l'exposition Cody's Law.
Bonjour.
C'est bien de pouvoir te regarder, ouais, puisqu'on est dans le même espace. Voilà. Alors, on vient d'écouter un court extrait de Species Counterpoint, donc Contrepoint des espèces. Mais par contre, tu as deux œuvres dans l'exposition. Je voudrais commencer par ça. Donc, il y a Species Counterpoint, la composition que nous venons d'entendre, qui est jouée par un piano mécanique dans l'espace. Ouais. Et il y a aussi une autre œuvre qui s'intitule 333 Hertz.
C'est juste.
Qui est installée dans la cour du Centre Wallonie-Bruxelles. Et je tiens à le souligner que c'est la seule œuvre accessible au public pendant le confinement. Si vous prenez la rue de Venise, on l'entend et on le voit.
Ouais, on embête les voisins avec plaisir.
Alors, on va parler des deux œuvres, mais puisqu'on vient d'écouter Contrepoint des espèces, peut-être on va commencer par ça. Donc c'est une composition musicale faite à partir du constat que l'être humain et les plantes partagent 60% de leur ADN. Et donc c'est cet ADN partagé qui donne la matière de la sonification, si je ne me trompe pas. Et c'est ensuite, ça. C'est joué par un piano mécanique. Est-ce que tu voudrais en parler?
Voilà. Donc, en effet, on partage 60% de nos gènes avec les plantes. La raison, c'est l'évolution. On était tous, à un moment donné, des êtres unicellulaires. Et puis, on s'est différenciés en des choses aussi différentes, en tout cas visuellement, que des plantes et des humains. Et donc, l'idée de l'installation, c'est de faire écouter cette similarité L'ADN est traduit en son. Vous avez entendu ces quelques petites notes. Il y a quatre notes différentes utilisées dans la composition, comme il y a quatre lettres, quatre nucléotides dans l'ADN qui codent pour toute la diversité du vivant. Et donc sur le piano, sur ce qu'on pourrait décrire comme la main gauche du pianiste, on entend une mélodie qui est la traduction en son de l'ADN d'un végétal, d'une plante, et sous la main droite, l'ADN d'un humain. Et 60% du temps, la main gauche joue les mêmes notes, un octave plus haut, mais les mêmes notes que la main droite. Voilà, ce qui fait quelque chose d'assez monotone que j'adore quand il n'y a pas trop d'informations.
Alors, il y a plusieurs niveaux, en fait, parce que c'est une œuvre qui rend sensible donc, cette communauté d'ADN. Mais aussi dans le piano comme objet, quand on est dans l'espace, il est rendu complètement visible, en fait. Ce ne serait pas le cas normalement, mais on voit toute la mécanique d'une piano mécanique, y compris le petit rouleau papier perforé, qui est d'ailleurs pas sans référence au textile.
C'est vrai.
On en a parlé avec Claire un petit peu, donc cette idée de cette histoire commune que la machine Jacquard partage avec l'informatique. Mais c'était drôle de voir les deux ensemble. Et il y a une vidéo qui accompagne cette pièce et dans lesquelles, enfin, si on regarde, il est question aussi d'énumérer chacun des arbres ayant contribué à la construction du piano, l'ivoire, donc l'éléphant. Mmh. Et il y a presque, j'ai envie de dire, une approche animiste même. On a l'impression que le piano n'est plus un objet, mais presque un espace collaboratif entre plusieurs espèces, le piano lui-même. Je trouvais ça intéressant.
Ouais, ben je suis content que tu en parles. En fait, c'est un peu le moment dans voilà, ce dont tu parles, la diversité des espèces qui constituent ce piano. C'est pas quelque chose à l'origine qui était. C'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi ce piano mécanique. Au début, je voulais simplement expliciter, montrer ce processus de traduction du matériau génétique en son. Et c'est vrai que ce piano montre, à travers le papier, à travers les notes qu'on voit bouger, montre bien cette mécanique. Et je me suis fait un petit peu rattraper par la réalité de cette technologie qui est vraiment, comme tu dis, à l'intersection de plein de choses. C'est un peu un proto-ordinateur. Il y a déjà du code, il y a déjà des 0 et des 1 sous forme de papier, de trous et de plein. C'est un peu un instrument qui est à la croisée du jukebox, des consoles de DJ, de l'enregistrement haute fidélité, etc. Mm-hmm. On pourra en parler plus si on a le temps. Et voilà, et cette technologie est faite, comme tu commences à les énumérer, d'être vivant, d'arbres, aussi de peau, pour juste compléter la liste que tu as donnée. Il y a du cuir, donc il y a de la peau d'animaux, etc. Mm-hmm. Et en fait, c'est un rappel que la musique est impossible sans la biodiversité. On ne pourrait pas fabriquer un piano mécanique ou n'importe quel instrument sans cette diversité génétique, sans les non-humains, sans les êtres vivants. Et c'était vraiment un rappel à l'ordre, mais c'était vraiment un écho, je pense, que de ce que j'essayais de toucher. Voilà, la mise ensemble de ces éléments l'a fait un peu seule. C'est vrai que chaque note qu'on entend de ce piano, les notes que vous avez entendues là, sont possibles seulement grâce à la diversité des êtres vivants.
Tout à fait. Alors, j'avais noté un peu des arbres aussi, juste pour les mentionner. Il y a du hêtre, du rosier, l'ébène, l'érable... entre autres, hein, il y en avait beaucoup plus que ça. C'est surprenant, le nombre d'espèces différentes.
Alors, à l'époque en particulier, il y avait vraiment un artisanat, un savoir-faire peut-être plus précis que maintenant, en tout cas dans la lutherie musicale, de comment chaque bois a sa fonction, en fonction de sa rigidité, de sa densité, etc. Mmh. On s'en sert dans différentes parties de ce piano. Mmh. C'est quelque chose qui a moins peut-être dans la lutherie électronique, en fait, que j'utilise beaucoup aussi. Ouais. Mais voilà, c'est une des raisons aussi de la diversité de ces éléments, c'est que chacun apporte un peu sa part au mécanisme.
Tout à fait. Alors, pour parler de cette autre œuvre qui reste accessible au public et avec son son dans la cour du centre à la niveau salle. Alors, il y avait donc cette œuvre qui s'appelle 333 Hertz. Et en fait, il y avait une phrase qui je pense, qui constitue le point de départ de cette œuvre, que je trouvais intéressant parce que je pense que ça s'applique au contrepoint des espèces aussi. C'était cette question qu'on connaît, en fait, l'arbre qui tombe. Donc, si un arbre tombe dans une forêt lointaine sans personne aux alentours, produit-il un son ? S'il n'y a personne pour entendre le son, existe-t-il vraiment ? Alors, c'est la grande question. Donc, c'est une œuvre qui nous parle de la déforestation, du taux de déforestation sur une échelle temporelle assez importante et sur une échelle globale aussi. Mais surtout, cette question... Je pense que ça, c'est une question philosophique d'ailleurs. Si on ne perçoit pas quelque chose, est-ce que cette chose existe ? Comment cette chose existe ? De quelle façon elle existe ? Est-ce qu'on l'affecte si on se met à le percevoir ? Donc, alors c'est. Donc, est-ce que tu voudrais d'abord parler de cette œuvre ?
Oui, bien sûr. Ouais, une rapide description. Donc, c'est une pile de bois, de troncs, d'arbres. Sur chacun desquels a été ajusté un métronome qui bat au rythme de la déforestation de la région du monde, de la forêt qu'il décrit, le nom de la forêt indiqué. Il y a une vingtaine de forêts, ce n'est pas une liste exhaustive, elles sont chacune dans l'installation parce qu'en 2019-2020, elles ont eu une actualité en rapport à la déforestation dans la presse qu'on a trouvée. Ce sont toutes des forêts primaires aussi, parce que couper du bois ne veut pas, ou un arbre ne veut pas forcément dire déforestation. Là, on parle vraiment de couper des forêts anciennes et donc de couper aussi le patrimoine génétique, la diversité des espèces, le patrimoine culturel humain aussi, parfois, souvent. Et donc voilà, chaque tronc, chaque métronome va indiquer en... beats per minute, en BPM, c'est l'échelle qui a été choisie, l'échelle du tempo musical, le nombre d'arbres qui est coupé par minute dans cet endroit, donc on pourrait dire en arbres par minute. Voilà, l'installation s'est développée sur la réalité mathématique que pour mettre en BPM la déforestation globale, son rythme, on ne peut pas le faire, puisque... ce rythme est trop rapide pour que l'oreille humaine puisse le distinguer comme deux pulsations. Ça devient une fréquence, et cette fréquence, on l'a calculée, c'est à peu près 333 Hertz. Donc si, à la question philosophique, est-ce que les choses existent quand elles sont loin de nous ? Alors la réponse est évidemment oui, surtout à notre époque de crise climatique. Mais pour aller un peu plus loin, le son de la déforestation, ça serait cette espèce de son continu tellement c'est rapide. Donc ensuite, l'idée a été de montrer des localités et pas forcément le phénomène dans son ensemble. Et toute l'installation, son envie, c'est d'essayer de mettre cette déforestation à l'échelle humaine, à l'échelle de la visite au centre wallonien.
D'ailleurs, une des particularités de cette œuvre, c'est que si on s'en approche, on voit les noms des forêts, des types de forêts. Il y a différents types de forêts, il y a différentes régions. Donc chaque métronome est attribué. Et donc il y a forêt tropicale, humide, boréale, taïga, etc. Et des régions du monde différentes. Et en voyant ça, on se rend compte que justement, c'est peut-être c'est une sorte d'information auquel on n'est plus tellement sensible. J'ai l'impression. En tout cas, cette œuvre ramène cette idée de la diversité de la forêt. Tout comme le piano qui porte en elle toutes ces espèces. Et là encore, toute forêt est un terme générique, mais ça englobe une diversité des situations et de régions et de milieux qui est assez impressionnant.
L'installation, elle montre aussi des forêts européennes. On dit parfois qu'il y a plus de forêts primaires en Europe. C'est vrai, mais il y a quelques forêts anciennes, très anciennes, qui subsistent en Pologne, dans les Carpates, par exemple. Et je pense que c'est pas seulement une question d'habitude où on a entendu trop, peut-être, de déforestation, on y est plus sensible. C'est aussi que c'est très difficile de parler des choses qui nous sont proches. On aime bien parler de la déforestation tropicale, dans les régions tropicales, qui est en quantité, peut-être en ce moment, la plus importante. Nous, on a défriché l'Europe il y a bien longtemps. Et on oublie facilement, parce que c'est difficile d'en parler, et parce que c'est plus confortable, que ça continue en Europe. Alors, ce n'est pas des chiffres énormes, les métronomes battent un peu plus lentement, mais en proportion, c'est totalement à comparer avec ce qui se passe en Amazonie, par exemple, etc.
Et la Scandinavie, je me souviens que c'était assez rapide.
C'est juste, il y a beaucoup de forêts boréales qui partent en musique.
Tout à fait. Mais tout ça me fait penser à un livre que je lisais ce matin, parce que je viens de l'acheter en fait, c'est Baptiste Morisot, pour une manière d'être vivant. Je n'ai pas encore, j'ai lu 10 pages parce que je viens de le recevoir, mais il développe cette idée que la crise écologique, finalement, c'est une crise de la sensibilité. Et il donne un exemple que je vais dire, c'est qu'il parle d'un enfant d'une dizaine d'années aujourd'hui qui serait capable de distinguer, d'identifier des centaines de logos de marques, alors qu'il serait incapable d'identifier 5 espèces d'oiseaux qui l'entourent.
Ça marche aussi avec le son, ouais. On connaît beaucoup de logos sonores facilement et moins... Alors les oiseaux sont assez à la mode en son, mais après il y a plein d'autres choses.
Tout à fait. Alors, je voulais revenir et poser peut-être une dernière question à toi, mais aussi par la suite, Claire et Sébastien, si vous voulez, n'hésitez pas à parler. Tous ces outils, nous avons aujourd'hui donc, plein d'outils qui nous aident à quantifier la fin du monde. C'est-à-dire que, je parle d'outils numériques ou de captation de données dans les océans ou dans des échelles temporelles. Un recueil de données qui nous est disponible aujourd'hui pour quantifier la fin du monde. C'est la couverture anthropique dont il était question dans le texte de cette vidéo de Sébastien Lacomblaise aussi. La question que je me pose, c'est est-ce que tous ces outils qui nous permettent justement de mieux percevoir et quantifier la fin du monde, est-ce qu'il ne contribue pas aussi à produire cette réalité-là ? Et s'agissant de cette idée d'apocalypse, donc, si on programme un outil pour surveiller et quantifier la pollution dans les océans, on aura évidemment plein d'informations sur ça, sur la pollution dans les océans. Et est-ce que derrière, il ne nous faudrait pas une appropriation plus collective, et notamment dans le cadre de pratiques artistiques. Je pense que c'est le cas avec ton œuvre, une appropriation artistique de ces mêmes outils.
Ouais, mon parcours, c'est plus je viens des sciences plutôt. Je vais pas pousser très loin, mais à la base, c'était mon intérêt. Et en fait, je crois que beaucoup de ma pratique artistique, tout simplement. aujourd'hui, son objectif et ce qu'elle essaie de faire, c'est peut-être de transformer, de rapprocher ce que je vois comme un fossé entre la science et la culture populaire. Mais alors, ce que je veux dire, c'est pas les gens se foutent de la science seulement. Je pense qu'il y a quelque chose d'historique, une fracture qui peut-être s'amplifie, mais qui vient un peu des deux côtés, pour des raisons peut-être justes. Pendant longtemps, on a brûlé des scientifiques et le côté fictionnel, ésotérique, peut-être de la religion, mais sous les mains de l'institution religieuse, a un peu déconné là-dessus. Et donc maintenant, il y a vraiment cette séparation. La science ne touche pas du tout à la fiction, au récit, à l'esthétique. Essaye vraiment d'avoir cette démarche objective. Et en effet, je pense que c'est peut-être un fossé qui ne profite à personne au final. Que ces data ne soient, ces données dont tu parles, soient que analysées de manière objective ou partagées par seulement sous forme d'articles de presse qui ont tendance. On connaît la presse est plutôt quelque chose qui donne des mauvaises nouvelles, quelques bonnes nouvelles. Et donc c'est important dans ce contexte, pour parler à la science qui a rapport à l'écologie, de proposer d'autres rapports, en effet, d'autres sensibilités. Les données et ce qu'elles veulent dire ne changent pas forcément. Il y a une vraie crise climatique en jeu, etc. Mais il y a différentes approches et différents moyens de s'y connecter, de vouloir agir. Et donc, je pense que ça doit aller au-delà de la... J'aime bien que ma pratique artistique ait un rôle de communication scientifique, mais aussi l'idée que ça puisse aller au-delà et que ça soit une vraie démarche scientifique au sens où cette science ne doit pas seulement être mesurée, mais aussi ingérée, transformée, et on doit acter là-dessus aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à exactement ta question sur ces données. Est-ce qu'elles changent, changent notre vision? Je crois qu'il y a... En tout cas, il y a le besoin de diversifier ce regard, c'est sûr.
Il est question, je voudrais revenir peut-être aussi sur l'idée du pouvoir du récit. C'est pour ça que oui, en fait, tu as répondu, parce que ce fossé justement dont tu parlais entre la science d'un côté et la culture de l'autre, ça crée un manque de prise en main des récits qui circulent. Et bien sûr, le pouvoir de l'apocalypse comme image, c'est dramatique, c'est spectaculaire. C'est aussi une question de l'attention, justement. Oui, la crise écologique est une crise de la sensibilité, mais elle est aussi une crise de l'attention politique. Et dans l'idée d'apocalypse et de l'effondrement, il y a un accaparement de cette attention. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de produire des récits, de faire circuler des récits alternatifs et autres aux récits dominants. Mmh.
J'ai fait une application récemment pour une collaboration scientifique et je proposais de mettre en forme un petit peu la proposition, de mettre un petit peu des images, des trucs comme ça. Et on m'a dit, faut pas trop en mettre parce que ça pourrait faire peur au jury, ils auraient peur d'être corrompus par la partie design de l'application. Donc on a fait quelque chose de très sobre. Mais bon, juste pour alimenter ce truc de fossé, je trouvais ça incroyable. Il y a vraiment une division. Pardon, je suis revenu sur le...
Si, si.
sur le fossé.
Alors, Sébastien et Claire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette réflexion sur les outils, qu'est-ce qu'on fait en quantifiant la fin du monde, quel récit peut-on tirer de récits alternatifs des données qui sont recueillies par ces outils?
Moi, je retiens le Shift Project, qui est un think tank qui a notamment poussé par Jean-Marc Jancovici, qui est un physicien. Par rapport à ce rôle de la culture, moi, c'est plutôt là-dessus que je vais rebondir. Et en tout cas, le rôle du récit, il dit, dans la prise en compte de la crise en cours, et surtout dans nos capacités d'y répondre, la culture, en tout cas, on va dire les médiums artistiques, peuvent jouer un rôle qui est celui de la sensibilisation. Et parce que de l'information, on en a, comme tu le disais, enfin, comme c'était dit, il y en a vraiment une tonne, et j'ai l'impression que c'est... Enfin, on en prend, et moi, je suis plutôt dans une forme de torpeur, hein, et je pense que l'inertie des gouvernements et l'inertie des populations aussi, parce que, voilà, elle est en partie liée au fait qu'on est face à une telle complexité qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer, quoi. Enfin... Moi, je suis assez négatif sur notre réelle capacité à changer les choses. Et c'est pour ça qu'avec mon entreprise et avec Terre, quand on fait des jardins, on considère ça aussi comme des backups. Hein, parce que je pense qu'il faut acter maintenant que la grosse majorité de la biodiversité va disparaître. Que c'est un peu une île. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de se bercer d'illusions. Et les jardins, sont des potentielles réserves de patrimoine génétique et des réserves dynamiques, hein, pas comme les banques de semences dont on entend parler. Il faut savoir, par exemple, l'araucaria, qui est un conifère, qui a pratiquement disparu dans sa région d'origine. En tout cas, il a une diversité génétique plus importante dans les jardins que dans son aire de répartition initiale. Voilà. Mm. Donc, voilà. Donc, si on peut jouer au moins ce rôle-là... de disséminer du patrimoine à gauche, à droite, pour avoir une sorte de backup planétaire. Voilà. Mais j'ai un gros doute sur la capacité à analyser toute la masse d'informations qu'on reçoit. C'est, justement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop. Je suis fatigué d'informations.
Oui, c'est pour ça. Enfin, je reviens à la même chose, mais on a besoin de moins de données, d'informations et plus de récits et d'histoires, peut-être aussi.
Ouais. Voilà. Oui, c'est pour ça la forme vidéo. Hein. Moi, par exemple, on l'a conçu aussi, genre, le soir, parfois, j'ai envie de m'endormir en regardant quelque chose de calme. Et voilà, on l'a conçu comme ça, tant qu'à regarder une vidéo, si elle peut éveiller des sensibilités, et ben, c'est déjà ça de prix, quoi.
Très bien.
Ouais, sur le... Non, je trouve très intéressant ce que dit Sébastien sur la fonction. Par exemple, sur l'œuvre sur la déforestation, en effet, je suis aussi dans cette idée qu'on est trop saturé d'infos. Alors, j'étais intéressé personnellement et par partager un peu cette mise à l'échelle et de faire l'expérience de scénario. Mais finalement, le seul message de cette œuvre, ça serait rejoindre une organisation, une association locale qui, si on veut contribuer à ce... truc-là et à agir d'une manière peut-être structurée par des gens qui ont peut-être plus l'habitude de ça. je ne sais pas si je suis négatif ou positif par rapport à tout ça. J'ai un truc qui me fait rire. Je me dis le truc principal qui va être perdu dans tout ça, au final, c'est la chance que les humains auraient de répondre à certaines questions intéressantes. Tant pis pour eux. Mais bon, ça ne se veut pas forcément cynique, mais c'est... Je trouve ça assez drôle, finalement. Enfin, c'est, peut-être ça m'aide à relativiser, je ne sais pas.
Oui, si, c'est, ça aide certainement. Et puis, je pense que c'est une question de perspective aussi, parce que l'information ou les données en soi ne produisent pas de perspective. Voilà, c'est pour ça que je reviens encore sur la question du récit, parce que c'est une mise en perspective, ça nous redonne peut-être, ça restitue peut-être une réflexion critique que justement les données en soi ne portent pas.
Alors Claire, je peux rajouter, mais je pense que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je pense que cette idée de ces masses de données ou d'informations, mais en fait qui ne veulent un peu rien dire. Enfin, elles ont été construites de manière pas du tout objective d'ailleurs, à essayer de mesurer, de quantifier cette activité. Mais si tout ça n'est pas habité par quelque chose, ni par un récit, ni par un jardin, ni par une œuvre ou des choses comme ça, ça n'a pas vraiment de sens non plus, quoi. Donc, c'est un peu comme si on déployait des moyens et en même temps, on était face à quelque chose et il n'y a aucun moyen de déployer dans le sens inverse pour essayer d'en faire quelque chose, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans quelque chose d'un peu étrange comme ça, de regarder son propre monde s'effondrer et de ne pas avoir de... Enfin, il n'y a pas de vraie solution, on va dire, globale pour permettre de le penser autrement ou même aussi d'une manière non pas anthropocentrée. Enfin, je ne sais pas, si toute cette idée d'essayer de mieux comprendre ou de communiquer à travers des outils technologiques ou pas, hein, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un arbre ou d'un insecte. Je veux dire, on n'est pas du tout là-dedans non plus, même avec les moyens qu'on déploie.
C'est vrai. Alors, je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cette conversation. Et donc, je répète que l'exposition Codislo au centre Wallonie-Bruxelles continue jusqu'au 28 février. Et sachant que la seule œuvre disponible est depuis la rue de Venise, celle d'Antoine Bertin sous la cour. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir également voir sur les plateformes en ligne du centre donc la vidéo de Sébastien Lacomblaise intitulée « Pour une civilisation des jardins ».